Le texte que nous allons commenter se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, versets 1 à 18. En voici la lecture. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place, pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. » Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourri, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme, la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Ah, alors voilà un texte de l'Apocalypse tel qu'on s'imagine, qui paraît tellement difficile. Alors il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup d'images. L'Apocalypse est un livre rempli d'images, c'est un codage donc qui était un peu rendu obligatoire, car ce livre a été écrit probablement une partie en 64 et une autre en 95, après Jésus-Christ, donc les deux grandes persécutions de Néron et de Domitien. Et effectivement, ça allait déjà mal pour les chrétiens. Alors si ouvertement l'auteur de l'Apocalypse, donc on va dire Saint Jean, condamne ouvertement l'Empire romain et Rome, il ne fait qu'aggraver la situation des chrétiens, donc c'est par codage. Par exemple, le dragon, on vous dit ici qu'il a 7 têtes. Attendez, je retrouve le passage où il avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, 7 diadèmes, 7, c'est les 7 collines de Rome, etc. Vous voyez ? Bon, enfin, il n'en reste pas moins qu'il y a un sens plus profond, bien sûr. Mais ce codage, il faut le comprendre, n'est pas fait pour rendre la lecture difficile, parce qu'il y a des mystères, etc., cachés, mais c'est tout simplement pour protéger la vie des chrétiens des premiers siècles. Et d'ailleurs, le message de ce texte est assez simple. L'Église est là, elle est affrontée aux persécutions, et son Sauveur paraît loin, il est monté au ciel. Donc il tarde à revenir, parce que les premiers chrétiens, à l'époque de Paul, pensaient que le Christ reviendrait assez vite, et le Christ ne revient pas, et les choses vont mal. Alors c'est l'Apocalypse qui eut des révélations, et qui malheureusement est venu à signifier quelque chose de terrible, d'un message d'espoir. Donc ce texte lui dit que malgré les apparences, malgré les difficultés, la victoire finira par venir, et elle n'est pas si loin. Ça c'est le message, si vous voulez, de ce texte dans notre vie quotidienne. Bien, c'est après les difficultés, après le tunnel, il y a la lumière. Et c'est aussi une manière de nous apprendre que nous, chrétiens, eh bien, nous sommes confrontés à des difficultés parce que, justement, le but de Dieu, c'est vraiment, à l'image de ceux qui vont remporter la palme dans l'Apocalypse, c'est de bien comprendre que Dieu veut que nous soyons heureux indépendamment des circonstances extérieures et que toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés n'ont qu'un seul but, nous éduquer pour nous ancrer davantage en lui par Jésus-Christ, pour que notre bonheur ne dépende pas des circonstances extérieures et donc il serait fragile, mais bien de notre foi et donc ce bonheur sera beaucoup plus solide parce qu'il sera plus stable, plus régulier, parce qu'il sera ancré dans quelque chose de solide, bâti sur le roc, l'amour de Dieu. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des difficultés, etc. Et c'est la leçon de ce texte qui nous dit, vous avez des difficultés, mais elles servent à quelque chose, et vous finirez par vaincre le dragon et avoir la palme, c'est-à-dire quand vous serez vraiment, quand votre bonheur sera assis sur le roc du Christ, eh bien, vraiment vous aurez la paix, quelles que soient les circonstances extérieures, et vous aurez le vrai bonheur, vous serez mûr pour le ciel, en quelque sorte, si j'ose dire. Alors, faut savoir aussi que, ici, Saint Jean reprend des images qui étaient connues du monde païen. On a un peu l'histoire de la naissance d'Apollon, comme ça, ou d'Horus, dans la religion égyptienne. Alors, on pourrait dire, ah, vous voyez, finalement, Jésus, c'est ce qu'on dit, c'est des bêtises qu'on entend, qui vont même jusqu'à nier l'existence de Jésus en disant que Jésus est une reprise d'Horus, n'importe quoi. Enfin, franchement, son existence historique n'est plus à démontrer. Mais ici, c'est une manière pour Jean de simplement dire qu'il n'y a pas d'Apollon, il n'y a pas d'Horus, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. C'est tout. C'est bien pour ça qu'il reprend une image qui est déjà connue. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je vous propose de rentrer plus avant dans ce texte par une analyse un peu linéaire. Donc un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Alors il y a plusieurs degrés d'interprétation, on va voir à chaque fois. Bon déjà, c'est la Vierge Marie, c'est un texte qui est lu à l'Assomption. Et Marie, on va l'associer, c'est une figure de l'Église, parce que cette femme, c'est aussi l'Église. Et le troisième degré d'interprétation, c'est nous. Nous sommes l'Église, nous chrétiens, où nous sommes. Voilà. Donc si vous voulez, toujours, c'est l'Église qui trouve sa, comment dire, comme son origine, sa plénitude dans la Vierge Marie, qui est, si vous voulez, la coopératrice, l'Ève qui coopère avec son Adam, Jésus. C'est aussi donc nous l'Église, puisque nous sommes filles de Marie, et c'est nous chrétiens, fils de Marie aussi, filles de l'Église, où que nous sommes. Alors il faut voir que, donc cette femme, l'Église, nous-mêmes, avons le pouvoir. Nous sommes vêtus de soleil, nous avons la lune sous les pieds. Donc nous avons le pouvoir sur le jour et la nuit. Donc sur les ténèbres, nous avons le pouvoir. Sommes-nous conscients que nous sommes rois, co-héritiers du Christ, comme dit Saint Paul, prophètes, rois, etc., fils de Dieu. Donc nous sommes vêtus de soleil et nous avons sous nos pieds la lune, ici la nuit. Donc nous avons ce pouvoir, malgré les apparences, par la prière, par notre vie, par notre foi en Jésus, par le Christ, nous sommes plus que vainqueurs, dit Saint Paul. Et à condition d'avoir une couronne de 12 étoiles. Et oui, notre foi doit être la foi de l'Église, les 12 apôtres, et aussi les 12 tribus d'Israël. Notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu et la tradition de l'Église. Parce que si nous appartenons à une secte, nous pourrons nous dire chrétiens, nous ne serons pas fils de cette femme et nous n'aurons pas la lune sous nos pieds. Il faut être dans l'Église, avoir cette foi juste du credo pour être vraiment fils de cette femme et être vêtu du soleil et avoir ce pouvoir sur la lune. Alors pourquoi ? Ben, il est important d'assimiler un credo avec son cœur plus qu'avec sa tête parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et l'Église, par son interprétation de la parole de Dieu depuis 2000 ans, qui remonte aux apôtres, nous donne une image la plus juste possible de qui est notre Sauveur. Et pour bien aimer quelqu'un, il faut bien le connaître. C'est pour ça qu'il est important de savoir qui nous aimons. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la tradition de l'Église. Alors, elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Bon, alors, Marie, bien sûr, qui va accoucher du Sauveur. Et c'est nous aussi, c'est l'Église qui accouche du Sauveur. C'est l'Église qui a pour rôle de semer la petite graine de la grâce de Dieu dans le cœur des hommes. C'est nous, par nos paroles, quand nous avons l'occasion, mais d'abord par notre prière. Quand nous prions pour quelqu'un, nous semons la semence de la grâce en cette personne, et après il nous faut l'arroser. Mais le geste fondateur, c'est quand nous commençons à prier pour quelqu'un. Nous enfantons la grâce, nous enfantons Jésus dans son cœur. C'est fort. Et c'est aussi par nos actes, notre charité qui prolonge notre prière. Et il y a une douleur de l'enfantement parce que quand nous prions, quand nous aimons nos frères pour les amener à Dieu, et quand nous-mêmes nous prions pour nous, nous faisons des efforts, tout ne vient pas tout de suite. Vous voyez, l'enfantement, il y a beaucoup de persévérance et de patience à avoir parce que Dieu respecte la liberté des hommes. Il respecte même nos propres réticences sans que nous en soyons conscients. Nous ne sommes pas toujours conscients de tous les obstacles qu'il y a dans notre cœur à la grâce de Dieu. Eh bien, Dieu respecte tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut du temps, pour nous-mêmes et pour nos frères. Et c'est très important. Donc, il y a une douleur de l'enfantement, mais nous sommes appelés à enfanter Jésus dans notre vie, dans le cœur de nos frères, comme l'Église est appelée à l'enfanter dans le monde, par son désir d'évangélisation, en prière, en parole et en acte. Donc, alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Voyez ici, c'est vraiment... On est lucide. Il y a des obstacles à la grâce de Dieu. C'est pas parce que nous prions pour quelqu'un ou que nous décidons, avec l'aide de Dieu, de manifester notre charité qui commence par notre intercession pour telle ou telle personne, que tout d'un coup, tout va aller bien. C'est pas parce que nous avons décidé d'appartenir plus à Dieu et de faire des efforts que tout va bien. Il faut prier, redoubler d'efforts et de prières et encore de prières pour que nous nous améliorions. Parce qu'il y a le grand dragon, il y a le malin, il y a Satan. Le mal ne laissera pas faire les choses. Et il est puissant, 7 têtes, 10 cornes, bon je dis c'est Rome, mais ça veut dire aussi, il a la pleine puissance, la corne c'est la puissance, 10 c'est la puissance, 7 c'est la plénitude. Donc 7, 7, 7, toujours, ce n'est pas rien. Ce qui s'oppose, c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris que quand nous commençons à avoir une vie chrétienne plus fervente, les obstacles arrivent, que nos efforts ne sont pas tout de suite couronnés de succès, et que nos prières ne sont pas tout de suite exaucées, enfin des prières bien sûr dans le cœur de Dieu. La prière fondamentale, c'est la prière pour la conversion d'une personne. Parce que qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de mieux? Mais on vous dit que sa queue qui balayait le tiers des étoiles les précipita sur la terre. Donc effectivement, cette bête a un pouvoir, a le pouvoir de nuire, a le pouvoir de extérieurement, effectivement, il y a des obstacles qui sont là et qu'il ne faut pas sous-estimer à notre travail de prière et d'amour pour nos frères et sur nous-mêmes. L'Église est affrontée à des obstacles et c'est évident. Mais pourtant, il n'y a que le tiers des étoiles qui est balayé. Il faut un regard de foi pour savoir. C'est beaucoup de bruit, beaucoup de vent que Satan fait, que le mal fait, mais fondamentalement, il ne peut pas blesser plus que le tiers des étoiles du ciel. C'est-à-dire que l'obstacle que Satan, que le mal fait surgir, que le diable fait surgir à l'action de grâce, que nous mettons en place par notre prière, que nous enfantons par notre prière et notre vie chrétienne, eh bien cette action, bien que puissante en apparence, dans la durée, elle va s'effriter, s'effondrer. C'est ce que dira le texte plus tard. C'est ça, seulement le tiers des étoiles. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Oui, nous avons pouvoir sur la lune et nous faisons peur au diable. Nous faisons peur au mal. Si nous ne sommes pas fils de l'Église, fils de la prière, eh bien, nous pourrons faire de l'humanitaire. Moi, le dragon ne sera pas posté devant la femme. Mais ce qui fait qu'un dragon se poste devant la femme, c'est que nous allons enfanter l'enfant, le sauveur. Est-ce que quand vous agissez, c'est au nom du Christ? Comme dit saint Paul, tout ce que nous fassions soit fait au nom du Christ, pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ça? Parce que nous pouvons, nous ne sommes pas toujours en mesure de témoigner explicitement, je peux poser un acte de charité au nom du Christ. Et donc fondamentalement, il y aura la prière qui va accompagner cet acte de charité, et cet acte de charité va enfanter l'enfant dans le cœur de la personne pour qui j'ai agi. Et là, le dragon a peur. Et là, il se déchaîne, parce qu'il panique. Je peux aussi faire un geste d'amour, mais sans l'accompagner de prières, et pour me donner bonne conscience, j'ai fait un acte ma béa. Là, le dragon va pas se poster devant nous, parce que nous allons rien enfanter, fondamentalement. Donc, prions le Seigneur pour que nous sachions enfanter l'enfant mâle par notre prière, notre vie chrétienne, notre vie de charité. Et que l'Église sache le faire en retrouvant son sens de la charité et accompagnée de l'évangélisation. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, c'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est une réminiscence notamment du psaume 2 et de certaines prophéties d'Isaïe. Est-ce que vous êtes convaincu donc que cet enfant, c'est-à-dire c'est un enfant, c'est tout petit, Noël, c'est le levain dans la pâte, cette petite graine dans Marc 6 dont Jésus parle, la graine de moutarde, c'est pas grand-chose. Notre prière, les gens semblent tellement fermés à Dieu. Notre prière, nous avons semé quelque chose, nous l'arrosons, elle grandit tellement doucement par nos actes de charité, notre prière fervente dans le cœur de nos frères, ou dans notre propre cœur par rapport à telle zone d'ombre dans notre vie. Et ça paraît si petit, et sinon à venir. Et pourtant, cet enfant, c'est lui qui aura la verge de fer. C'est une question de temps, simplement. Il faut avoir cette foi. Et pareil, quand nous voyons ce monde qui paraît loin de Dieu, tourner le dos à l'Église, tourner le dos à Jésus. Enfantons ce que nous pouvons. Enfantons Jésus par notre prière, notre vie de foi. Et vous verrez, l'Église, qu'elle est... Prions pour que l'Église ait toujours cette foi, qu'elle reste vive dans son désir d'aimer et d'évangéliser, parce qu'elle fait naître l'enfant, certes, mais celui qui a une verge de fer. Alors, on vous dit, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors, il faut savoir, c'est ce que dit saint Paul, que les véritables combats se font dans le monde invisible. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances du monde invisible, ce que dit saint Paul, hein. Eh bien, oui, la victoire se remporte déjà dans le monde invisible. C'est ça l'image, bon, c'est l'ascension. Jésus, l'enfant, est enlevé auprès de Dieu de son trône. C'est-à-dire la victoire de Dieu se fait de manière d'abord invisible, cachée, dans le cœur. Ça c'est d'abord, bien sûr, c'est prendre au sens littéral l'ascension de Jésus. Il est le maître du monde invisible. Mais soyons convaincus que justement, c'est quelque chose qui ne se voit pas. L'action de Dieu, la grâce de Dieu se fait de manière invisible d'abord et son efficacité ne se rendra visible que quand les choses seront mûres. C'est-à-dire quand les gens librement, enfin quand leur liberté aura été, éduquée pour qu'ils sachent dire oui librement, pour que notre liberté à nous soit éduquée, pour que nous sachions enfin dire oui à Dieu dans telle ou telle partie de notre vie, dans tel ou tel comportement. C'est ça. En attendant, c'est comme si cet enfant est enlevé. Il travaille de manière invisible. Nous ne le voyons pas. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Eh bien, en digne disciple du Christ, l'Église, Marie, qui nous montre l'exemple, nous sommes appelés à nous enfuir au désert. Le désert, depuis l'Exode, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de prière, tel le prophète Élie, qui va dans le désert se recueillir. Eh bien oui, notre victoire, l'enfant est enlevé au ciel, donc Dieu travaille de manière invisible, par son Fils, la grâce de son Fils travaille de manière d'abord invisible dans le cœur, eh bien nous sommes appelés à d'abord nous battre dans le monde invisible. Et comment pouvons-nous le faire? Eh bien par la prière. C'est d'abord par la prière que nous devons planter les choses. Notre action doit être nourrie, inspirée de Dieu par la prière et une lecture priante de la parole. Et c'est justement cette prière qui va nous nourrir de manière parfaite. Hein, 1260, c'est aussi 12 fois 1000, etc. Donc, et 6 fois 10. Donc, c'est la perfection. Donc, si nous voulons avoir cette faculté de nous battre en ayant le regard fixé sur l'invisible, et à ne pas baisser les bras parce que nous sommes impressionnés par le tiers des étoiles qui tombent, par les choses visibles qui ne sont que temporairement hostiles à Dieu, eh bien il nous faut d'abord avoir les bonnes lunettes, être capable de voir dans l'invisible. Alors pour ça, il faut des temps de prière, beaucoup lire la parole d'une manière spirituelle, J'ai déjà expliqué la façon de dire la parole d'une manière spirituelle dans d'autres enregistrements. C'est vraiment très important. Il faut vraiment avoir cette vision. Et nous sommes appelés à avoir cette vision par les temps de prière, c'est notre désert. Voilà où se gagne le combat. Est-ce que nous sommes convaincus que quand nous agissons, nous devons d'abord prier? Est-ce que nous sommes convaincus que, nous avons pouvoir sur la lune, sur le monde invisible qui est d'abord dans le cœur, l'inconscient de nos frères, dans leur souffrance dont ils ne sont pas forcément conscients, plus qu'un psychanalyste. Nous avons pouvoir par notre prière. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et alors, comme cette femme, nous accompagnerons cet enfant enlevé auprès de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans l'invisible que nous agirons d'abord. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Alors, vous voyez, alors je vais peut-être continuer quand même. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, et le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Bon, diable, c'est le mot grec, et Satan, c'est le mot hébreu, l'adversaire, le menteur, le calomniateur. Ce qui est intéressant, c'est que, avec Jésus qui est monté au ciel, vous voyez, avant l'incarnation de Jésus, eh bien, la relation avec Dieu n'était pas pleinement établie, et il y avait comme des parasites dans notre relation avec Dieu. Jésus a tout rétabli, et malgré les circonstances, et malgré le monde visible, et les circonstances présentes qui, comme un écran de fumée, nous font croire que les choses ne vont pas mieux, fondamentalement, la victoire est gagnée. Et ce n'est qu'une question de temps, de patience et de persévérance. Jésus a remporté la victoire dans le cœur de ton frère, dans ta vie, au cœur de ce monde. Il a remporté la victoire dans le monde invisible. Donc, en fait, tout ce qu'il nous faut, c'est d'être patient, et d'être persévérant dans la prière et dans la charité. Et nous accompagnerons à la manière de Michel, nous accompagnerons cette victoire qui se fait dans le ciel, dans le monde invisible, pour que, malgré les anges précipités dans le monde visible, c'est-à-dire que, comme je le dis, il y a le tiers des étoiles, c'est comme si le diable panique, il essaie de faire ce qu'il peut pour empêcher les choses, mais fondamentalement, la grâce de Dieu, par la croix, est victorieuse. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant la victoire, avant l'exaucement de nos prières, à condition qu'elles soient faites sur la volonté de Dieu. Et moi, quand je dis prière, je pense surtout à la prière pour la conversion, pour l'ouverture du cœur, nos propres cœurs, le cœur du monde et le cœur de nos frères à Dieu. Ça, c'est une prière forcément selon le cœur de Dieu. C'est demander l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus dit. Et ça, c'est forcément une prière que le Père exauce. Eh bien, vous voyez, et il y a une condition pour être, pour pouvoir vraiment efficacement lutter dans le monde invisible et pour avoir l'exaucement de notre prière qui va précipiter le grand dragon, c'est-à-dire que, sur terre. C'est-à-dire que il va y avoir effectivement un temps un peu comme Pharaon, Exode chapitre 6, où il s'endurcit, vous voyez, Pharaon s'endurcit, et Moïse peut faire des miracles de plus en plus grands. Ça m'a toujours frappé. Mais c'est une manière de dire que justement, plus la victoire de Dieu approche, plus l'homme, le mal en lui panique et se débat. Mais c'est en fait un signe de victoire, ce qui permet à Dieu finalement d'agir de plus en plus fort, parce que fondamentalement, la liberté de l'homme est en train d'être ouverte à l'action de Dieu. Ça paraît paradoxal, effectivement, quand vous relisez les 10 plaies d'Égypte, en fait, de dire que l'endurcissement de Pharaon est une manière de dire que de plus en plus son hostilité, en fait, est une prise de conscience de l'existence de Dieu, et que cette hostilité est finalement le mur de paille qu'il met avant le coup de grâce de la grâce de Dieu, et que pleinement et librement ils disent oui à Dieu. Eh bien, si finalement c'est ça, et Satan n'a pas d'autre solution que de paniquer, et que de manière visible les choses semblent empirer, mais c'est parce que de manière invisible justement la grâce fait son chemin, et ça, c'est Jésus qui l'a obtenu. Comment? Mais à part sa croix, parce que finalement, c'est un grand mystère, mais Dieu veut sauver l'homme par amour et non pas par la force. Et pour ça, il lui fallait librement qu'un homme puisse aimer parfaitement ce qui allait donner à Dieu, justement par cet amour parfait d'un homme pour les autres hommes, ça allait donner à Dieu comme une porte ouverte à sa grâce et à son amour pour agir de manière durable et efficace dans l'humanité, parce que depuis qu'un homme a aimé parfaitement Dieu et les hommes, eh bien l'amour de Dieu peut se déverser parfaitement sur l'humanité. C'est Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, c'est Jésus qui sur la croix a ouvert cette porte, cette brèche. C'est pour ça que maintenant, l'amour a été manifesté, l'amour de Dieu manifesté pleinement dans la liberté d'un homme nommé Jésus, qui était donc aussi pleinement homme. Eh bien, cet amour qui a pu se manifester pleinement, eh bien, cet amour maintenant peut agir définitivement. C'est le grand mystère de la croix et de la victoire. Et c'est pour ça que maintenant l'amour de Dieu peut, avec le temps certes, mais efficacement agir. Donc, ne nous laissons pas impressionner. Pour nous, c'est un appel à la persévérance. Et il faut être comme Michel. Michel veut dire « qui est comme Dieu ?» Point d'interrogation. Il faut savoir se faire humble et ne pas par nos propres moyens vouloir battre Satan, mais justement savoir que c'est Dieu qui peut par nous vaincre Satan. C'est-à-dire, il faut prendre les armes en Éphésiens 6 qu'on nous conseille, la lecture de la parole, la prière, la foi. C'est donc la charité. C'est donc en priant et en nous laissant modeler par l'amour de Dieu, en aimant à sa manière, inspiré par lui, que nous pourrons vaincre le mal et agir, déjà accompagner cette action du monde invisible qui va finir par triompher sur le monde visible. Et ça, nous sommes appelés à le faire seulement si nous sommes Michel, c'est-à-dire qui est comme Dieu, ne pas vouloir se faire l'égal de Dieu en agissant par nous-mêmes et par nos propres efforts, mais en sachant vraiment nous laisser inspirer par Dieu dans la prière. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc c'est ce que je viens de dire avec la victoire du Christ sur la croix. Voyez, malgré les apparences, la victoire est assurée. Et c'est amusant parce que dans les deux Job, effectivement, on voit le diable qui accuse les hommes. C'est un petit peu comme si l'amour de Dieu ne pouvait pas pleinement, la miséricorde de Dieu ne pouvait pas pleinement se déverser sur les hommes. Eh bien, depuis que justement Jésus sur la croix a pu pleinement permettre à l'amour de Dieu de se déverser librement par un homme sur d'autres hommes, eh bien maintenant la miséricorde de Dieu peut pleinement se manifester et malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Dieu peut nous pardonner pleinement. Dieu peut nous aimer pleinement. Il n'y a plus rien qui fait obstacle, et ce qui paraît être un obstacle n'est que quelque chose de provisoire que nous sommes appelés à faire sauter en laissant le Christ, sa grâce, agir de plus en plus en étant des êtres de prière et de charité, inspirés par la prière. Donc maintenant, justement, Satan qui ne peut plus accuser nos frères jour et nuit, parce que maintenant, en Jésus, l'amour de Dieu a pu pleinement se manifester définitivement et Dieu peut maintenant nous sauver par son amour tout en respectant notre liberté. Parce que un homme a pu librement permettre à Dieu de nous aimer librement et de nous sauver librement parce que par un homme, Dieu a enfin pu. C'est fou, c'est ce que dit Paul dans Romains 8. C'est par un homme qui est venu le salut, hein, qui est venu le péché, mais c'est aussi par un homme qu'est venu le salut et la grâce. Finalement, c'est par ce que, en se faisant homme en son Fils, Dieu a respecté notre liberté, et c'est librement donc que Dieu, par un homme, par Jésus, par son Fils incarné, c'est librement que Dieu a pu nous aimer, tel un homme parmi les hommes. Donc c'est bien par un homme que les hommes sont sauvés. Donc notre liberté est pleinement respectée. Et c'est cet amour libre et sauveur qui a trouvé sa perfection dans la croix qui va comme faire exploser les barrières. Donc maintenant nous sommes au bénéfice de cet amour C'est pour ça qu'il nous faut toujours regarder à la croix. Pour vraiment, quand ça va mal, etc., mettons tout au pied de la croix. Parce que au pied de la croix, c'est l'amour de Dieu peut se déverser pleinement. Il n'y a plus d'accusateur, il n'y a plus rien. De même, mettons au pied de la croix nos frères, mettons au pied de la croix tous ceux que nous voulons amener à Dieu, au pied de cet amour qui se déverse pleinement en Jésus-Christ. Mais les chrétiens, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bon, ici, c'est aussi les martyrs, bien sûr. Et regardez, c'est nous, c'est l'Église. D'abord, qu'est-ce qu'il faut pour être au bénéfice de cet amour de Jésus et pour justement pouvoir permettre à cet amour gagné par Jésus, si j'ose dire, sur la croix, gagné par Dieu en Jésus sur la croix, d'agir pleinement dans l'humanité maintenant. Comme dit Paul aux Galates, donner comme un surcroît d'humanité à la grâce du Christ. Comment faire? Eh bien d'abord, c'est vaincre par le sang de l'agneau. C'est donc par notre relation personnelle à Jésus, pas par nos propres mérites, mais par notre vie de prière, en priant et en nous laissant modeler par la grâce de Jésus, et en arrosant cette grâce par notre prière sur nous et sur nos frères, que nous pouvons vaincre. Et c'est dans son sang, c'est-à-dire se laisser aimer par Jésus et se laisser sauver par lui. Nous avons besoin d'un autre avec un grand A. Cessons notre orgueil de penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Et ensuite, par la parole dont ils ont rendu témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont aimé en acte. Ne pas aimer la vie jusqu'à craindre la mort. Vous savez, il faut savoir mourir à soi-même, faire passer les autres avant, savoir que finalement, notre bonheur ne dépend pas de notre égoïsme, mais de notre altruisme et de notre charité. Et ça, nous ne pouvons l'apprendre que dans le sang de l'agneau. Et cet amour que nous sommes appelés à manifester, il doit être nourri par l'envie de témoigner, par la parole, ou par un témoignage, disons, plus implicite, qui est la prière et l'action, ça dépend des circonstances. Mais notre charité doit être parole. Les gens doivent voir le Christ à travers nous, et ça, c'est parce que nous devons le fréquenter pour qu'il puisse vivre en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dit saint Paul en Philippiens. Eh bien, voilà. Vaincre, c'est d'abord dans le sang d'agneau, en ayant une relation avec l'agneau, en nous mettant humblement devant lui, et en nous laissant aimer par lui, façonner par lui, transformer par lui, en ayant le désir d'aimer, et que cet amour soit motivé par notre envie de partager notre Sauveur. Voilà, c'est comme ça que nous remporterons la victoire. Et c'est pourquoi, soyez dans la joie, nous dit le texte, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Oui, c'est le monde invisible se réjouit, parce que si nous sommes des êtres de prière, ancrés dans le Christ, avec une charité active et évangélisatrice, eh bien, le monde invisible peut se réjouir, car la grâce de Jésus ne peut faire que son chemin, et la victoire gagnée sur la croix va trouver effectivement son accomplissement, par le surcroît d'humanité que nous lui donnons, et ainsi l'œuvre de la croix continue son œuvre justement. La liberté sauve l'homme libre, c'est-à-dire les hommes sauvent les hommes. Donc c'est bien Dieu qui peut sauver l'homme par l'homme, c'est-à-dire en respectant sa liberté. C'est Jésus qui continue son œuvre, lui, le Fils de l'homme, de sauver les hommes par les hommes. Si nous sommes ces témoins qui vivons du sang de l'agneau, par notre relation personnelle à Jésus, où nous laissons aimer, façonner par Jésus, et nous aimons toujours avec ce désir d'évangéliser, que ce soit pas forcément par les paroles, ça dépend des circonstances, mais ce désir de partager notre Sauveur, que notre amour soit vraiment les mains de Jésus, que notre amour soit évangélisation. Eh bien, dans ce cas-là, le monde invisible est dans la joie, parce que c'est vraiment une question de temps avant que la victoire soit gagnée. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Eh bien oui, parce que c'est ça qui fera paniquer le mal, c'est ça qui fera paniquer le diable. Voyez, si nous ne vivons pas du sang de l'agneau, nous n'avons pas une relation personnelle avec Jésus, s'il manque, c'est un peu ce trépied. Ou si nous n'avons pas ce désir de témoigner, d'évangéliser. Et donc, si nous contentons d'aimer, pour aimer, pour gagner notre paradis. Là, c'est pas la peine, le diable y paniquera pas. Ou alors, si nous avons une foi abstraite, mais si notre vie de charité ne vient pas authentifier, accompagner notre prière, c'est que nous n'avons pas une relation vivante avec l'agneau, c'est pareil, le diable ne paniquera pas. Mais si nous avons les trois pieds, la trois, trinité, si vous voulez, si nous avons notre trinité d'action, si j'ose dire, relation personnelle avec Jésus, charité active, nourrie par le sang de l'agneau et par notre envie de témoigner de Jésus, faite au nom de Jésus, là oui. Si vous voulez, le diable paniquera. Alors ça veut dire que concrètement, effectivement, il y aura un temps où les gens pour qui nous prions pourraient bien devenir plus hostiles. Où nous redoublons d'efforts, eh bien nous chutons encore plus. Mais ce n'est que le prélude à ce que le mal craque, parce qu'il lui reste peu de temps. Il faut vraiment avoir ce regard, comme dit Hébreux 12, qui permet la foi, c'est ce qui voit au-delà des réalités visibles. Il faut vraiment entretenir ce regard, de savoir qu'au-delà des apparences, eh bien, ne pas se laisser décourager par nos chutes, ou par l'hostilité de nos frères, ou par leur indifférence malgré nos prières et notre charité, mais que nous redoublions de prières, confiant que ceci n'est que le prélude à la défaite finale du mal. Est-ce que nous en sommes convaincus? Eh bien oui, prions pour en être convaincus et continuons à nous nourrir de la parole, parce que elle seule, dans un esprit de prière, peut nous donner le regard qui nous permettra de voir les choses de l'invisible. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie loin du serpent, un temps, des temps et la moitié des temps. De nouveau, ça se répète, hein, c'est toujours la même chose, mais sous des images différentes, ce qui donne au texte un aspect intéressant et non pas rébarbatif. Donc le dragon se déchaîne. Les choses vont mal. Et au lieu de nous décourager, eh bien justement, les choses, ils se lancent à notre poursuite, etc. Comment faire? Quand nous voyons que les circonstances extérieures ne vont pas, tout ne va pas comme nous voudrions, malgré notre désir, notre prière, eh bien nous sommes appelés à fuir au désert, sur les deux ailes, sur les deux ailes du grand aigle. Ce sont les ailes de la prière. Ce sont les ailes du monde invisible. Nous sommes appelés à emprunter l'aigle. L'aigle, ça me fait penser aussi à Saint Jean, qui est le symbole, justement, c'est son symbole. C'est-à-dire, savoir reposer, tel Saint Jean, notre tête sur la poitrine du Christ. Savoir redoubler de prière. On pourrait dire que ici, les deux ailes, c'est à la fois l'aile de la prière et l'aile de la méditation de la parole, c'est aussi l'aile de la prière et l'aile de l'action qui vont ensemble. Eh bien, continuons cette vie de prière, centrée sur la parole du Christ. Continuons aussi cette prière qui se prolonge dans notre action et notre action qui se nourrit de notre prière. Et c'est comme ça que nous envolerons au désert. Et c'est comme ça que nous serons nourris, justement, de cette foi, de cette espérance que malgré les difficultés temporaires, faut déjà le croire, eh bien la victoire est assurée. Et justement, cette victoire, cette patience qui nous est demandé d'avoir tout en continuant à aimer humblement et à prier, eh bien on nous dit que ça dure un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps, mais c'est comme tronquer la moitié d'un temps. C'est-à-dire que la victoire, certes il faut de la patience, mais c'est efficace et les choses vont le plus rapidement possible compte tenu des difficultés et des libertés, des réticences à respecter. Mais les choses ne traînent pas. La victoire est assurée et la victoire arrive, efficacement, puissamment. C'est pour ça que cette espèce de temps qui est donné, on dit la moitié d'un temps, c'est comme tronqué, c'est-à-dire que malgré les apparences, ce travail patient et qui paraît inefficace, eh bien c'est très puissant. Et ça va comme tronquer le temps qu'il reste au mal. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Alors voyez, jusqu'à maintenant la terre c'était finalement le lieu où le diable pouvait régner. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable se déchaîne et veut couler l'Église, veut nous couler nous. Etc. Et qu'est-ce qui vient au secours de la femme? Eh bien, c'est cette même terre qui, jusqu'à maintenant, était le lieu du dragon. Vous voyez, qui va s'ouvrir et engloutir le fleuve. Ça veut dire que, malgré les apparences, eh bien, la grâce travaille dans notre vie, malgré nos chutes, que malgré l'hostilité des gens pour qui nous pouvons prier, etc., et que nous aimons et que nous voulons aimer en Jésus-Christ comme authentification de notre prière, eh bien, il y a dans leur fond intérieur quelque chose qui s'ouvre à la grâce de Dieu, qui s'ouvre, hein, cette image, qui va comme engloutir tout ce qui fait obstacle. Donc la grâce de Dieu travaille, et les gens, malgré les apparences, sont souvent plus réceptifs qu'on ne croit à la parole de Dieu. Et ce monde qui paraît loin de Dieu, eh bien, finalement, la grâce de Dieu travaille et il va finir par s'ouvrir et comme engloutir le fleuve de la mort vomi par le dragon. Il faut vraiment en être convaincu parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu, voyez, savoir regarder au-delà des réalités temporaires et visibles. Donc, c'est aussi une manière de dire que la liberté qui est mal utilisée de l'humanité va finir par être formée, par être éduquée pour enfin engloutir le venin du dragon. Donc, fort de cette conviction, nous savons que la victoire n'est qu'une question de temps. De temps est la moitié d'un temps. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Donc ici, on peut aussi voir Marie qui est montée au ciel et à sa suite, eh bien, c'est le reste des chrétiens, c'est l'Église, si de Marie qui doit lutter. C'est une manière aussi de nous dire que même si nous avons la victoire dans le monde invisible et même si dans le cœur de nos frères, la grâce fait son chemin, eh bien, il y a encore un combat à mener, celui de la patience et de la persévérance, et notamment dans le monde visible, où nous devons faire preuve de charité et de miséricorde et de patience par rapport à ce qui peut nous heurter chez nos frères, chez ceux pour qui nous prions, dans leur lenteur, etc. Nous devons toujours avoir ce regard d'espoir, malgré les réalités qui sont souvent peu amènes, qui sont souvent peu réjouissantes. Puis il se posta sur le sable de la mer. Si vous voulez, c'est un combat de longue haleine, mais nous savons maintenant comment le remporter à la manière de Michel et de ses martyrs qui ont vaincu par le sang de l'agneau la parole dont ils ont rendu témoignage et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette femme qui se retire au désert, nous avons toutes les armes pour faire face au dragon qui se poste sur le sable de la mer, mais qui ne peut pas justement nous toucher parce que ce même sable finira par s'ouvrir pour de nouveau engloutir chaque fleuve que le dragon vomit. Donc soyons conscients que malgré les obstacles, que malgré les successions les vagues, on pourrait dire, d'obstacles qui peuvent se produire par rapport à l'exaucement de nos prières, par rapport à notre vie de foi, par rapport au progrès de la grâce, ce n'est que reculer pour mieux sauter pour le diable. Et que fort de cette conviction, eh bien, nous soyons regaillardis dans notre foi pour prier avec plus de conviction et aimer avec plus de charité, avec toujours dans le cœur un désir toujours plus vif de vaincre par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par notre relation personnelle que nous entretenons avec Jésus, par nos temps de prière et nos lectures de la parole. Ces deux ailes, temps de prière du grand aigle et parole de Dieu, sont les deux ailes qui nous permettront justement de voir au-delà des réalités et faire face au dragon qui se poste sur le sable de la mer. Voilà. Alors je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence, où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur. Oui, apprends-nous ne pas avoir peur du dragon, que vraiment tout est sous nos pieds, pourvu que nous sachions être des êtres de prière nourris par ta parole, et que, à cette source, notre charité vraiment soit dynamisée. Amen. Réveillons-nous, Jésus, notre désir aussi de rendre témoignage en prière, en parole et en acte. Alors oui, le diable n'aura que peu de temps. Peu de temps pour encore nous faire chuter et faire chuter nos frères, et pour encore faire chuter ce monde. Et Seigneur, nous prions pour ce monde et pour certains aspects de notre vie. Oui, vraiment, que ces aspects de notre vie, que ce monde qui est loin de toi, eh bien, se trouve vraiment libéré de ce flot, et que tout ce qui fait obstacle en ce monde et en nos cœurs à ta grâce s'ouvre pour vraiment engloutir le flot du mal qui nous maintient encore dans le péché. Nous pensons tout particulièrement maintenant à certains aspects de notre vie que nous soumettons à la lumière de ta grâce. Et nous pensons à des frères très précis qui sont encore loin de toi. Eh bien oui, comme cette femme à l'image de Marie. Avec elle, par son intercession, nous prions pour eux. Oui, afin qu'ils sachent vomir ce fleuve de mort qui les enferme dans leur malheur d'être loin de toi. Et enfin, nous prions pour être ces témoins qui ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, apprends-nous à vivre de ton sang, c'est-à-dire avoir cette relation, Jésus, où nous nous laissons aimer par toi. Nous voulons t'obéir et t'aimer en retour. Et puis, apprends-nous à avoir ce désir de te faire connaître par notre prière, nos paroles et nos actes. Oui, c'est ça, aimer, qu'à ne pas craindre la mort. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute. Fin de l'enregistrement.
Free audio post-production. Biophonic.com